Si Catherine avait été quelconque, pensait Valérie, elle aurait eu une chance de s'en sortir. Mais son physique la condamnait. Le New York Times s'était laissé aller à la décrire comme un paradoxe vivant entre beauté et corruption. Un journaliste du Chronicle, souffrant d'ambition littéraire, l'avait qualifiée de grotesque et fascinant rejeton d'Aphrodite et de Lucifer. Le National Enquirer, fidèle à son lectorat, avait proposé l'ange sexterminateur, tandis que Twitter, parmi ses innombrables inepties, avait accouché d'un « Catherine Glass ferait passer Hélène de Troie pour un gros boudin ». Elle était peut-être la femme la plus détestée d'Amérique, mais cette haine surnageait au milieu des eaux troubles du désir, ce qui, plus encore que ses crimes, impliquait qu'elle devait être détruite. Ainsi, Delgado se préparait une belle migraine d'ici à la sentence définitive. En 2006, un juge fédéral avait fait suspendre les exécutions en Californie après avoir découvert des failles dans le processus d'injection létale. Et depuis, les condamnés s'entassaient dans le couloir de la mort comme des avions de ligne au-dessus d'un aéroport embouteillé. L'approbation de la nouvelle procédure, prétendument améliorée, prenait une éternité. Et dans tous les cas, les batailles légales entre les avocats des détenus et le procureur général de l'État continuaient. Dans les faits, il existait un moratoire tacite sur les condamnations à la peine capitale. Catherine Glass allait passer le reste de ses jours en prison, mais cela n'apaiserait pas la majorité braillarde. Aux yeux des gens, ses crimes ne méritaient d'autre châtiment que la mort. Valérie se leva et fendit la foule échauffée en direction des lourdes portes de chêne qui fermaient la salle d'audience. Le procès l'avait vidée, et les heures d'interrogatoire de Catherine Glass irrémédiablement souillées. Elle n'avait plus qu'une envie. Retrouver l'air humide de San Francisco, allumer une Marlboro, franchir les deux pâtés de maison qui la séparaient du bar le plus proche, et se commander une triple vodka tonique, suivie de trois autres, puisqu'elle était de repos ce jour-là. Mais un réflexe la poussa à se retourner avant de sortir. Catherine se tenait toujours debout entre deux gardiens, menottes au poignet. Valérie se remémora les vidéos, les victimes en larmes, l'escalade soigneusement orchestrée de leurs souffrances, les faux répits et les atermoiements savamment calculés, les supplications, l'évidente finesse avec laquelle Catherine et son amant procédaient, le sens de l'humour incisif qu'ils partageaient, et l'étrange vide qui les envahissait, de manière très visible, lorsque le moment était passé, lorsque la vie avait quitté leur proie et que plus rien ne pouvait nourrir leur plaisir. Elle repensa à toutes les conversations qu'elle avait eues avec Catherine dans la salle d'interrogatoire, seulement séparée de sa terrible beauté par la largeur de la table. Catherine, avec ses belles mains blanches et ses yeux verts omniscients, des yeux de garce selon Will, qui parlait avec une éloquence calme et précise, comme si elle possédait un savoir vers lequel le reste du genre humain ne faisait que tendre, avec une maladresse et une lenteur risible. Ne la regarde pas. Fais demi-tour et file. Tandis qu'elle hésitait, Catherine Glass tourna la tête, la dévisagea et sourit. Chapitre 1. Juillet 2015. C'est ce que tu redoutais, hein ? Lança Nick Blaskovitch depuis la douche des vestiaires du B-Club. Un renversement de l'équilibre des forces en présence. Mais comme souvent avec les choses qu'on craint, c'est aussi un soulagement, non ? Tu peux pleurer si tu veux. C'est pas mon jour, c'est tout, répondit Eugène Trent. Assis sur un banc en caleçon blanc Calvin Klein, Eugène se séchait les orteils. Nick venait de le battre au squash, pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à jouer l'un contre l'autre, 18 mois plus tôt. « Je suis crevée parce que j'ai baisé toute la nuit », précisa Eugène. « Évidemment, tu n'as pas ce genre de problème, toi. Et c'est d'ailleurs le fin mot de l'histoire. Aujourd'hui, tu as simplement réussi à canaliser toute ta jalousie et ta frustration. Ça t'a donné l'avantage sur ton pauvre adversaire épuisé par le sexe. Mais si tu crois que c'était autre chose qu'un coup de bol, tu te gourres. En fait, ce n'était qu'un cruel aperçu de ce que tu ne connaîtras plus jamais. C'était psychologique, ça sautait aux yeux, rétorqua Nick. Je l'ai senti en toi. Tu as fait le tour de ton répertoire. Tu sais que tu es déjà à ton maximum. Alors que moi... » Il coupa l'eau et tendit la main vers sa serviette. « Alors que moi, j'en suis encore à étoffer le mien. Je suis en pleine ascension. » « Me parle pas de répertoire, » se défendit Eugène. La fille de la nuit dernière avait 27 ans. Et elle s'est mis un doigt dans le cul. Dans le sien, pas dans le mien. Ce genre de truc, ça casse le moral. Après un match, leur rituel consistait à descendre 2 bières chacun au bar du club. Combiné aux efforts dans l'arène de squash, 2 verres suffisaient à plonger Nick dans une plaisante ébriété. Un de plus et il n'aurait pas pu conduire. Sérieusement, reprit Eugène, les gonzesses de nos jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord, elle a 13 ans de moins que moi. Qu'est-ce que j'en sais, etc. Mais ça doit être un truc de la génération porno. Ça me plaît pas. C'est moi qui dois être l'influence corruptrice, tu vois. Et si la fille se met un doigt, je veux que ce soit parce que je l'ai persuadée de le faire. Je suis du genre traditionnel. En fait, en ce qui concerne le cul, je suis même un grand romantique. Cela aussi faisait partie du rituel. Eugène, le satyre malheureux, contre Nick, le monogame installé. Nick et Valérie étaient ensemble, pour la 2e fois, depuis un peu plus de 2 ans, lorsque ce dernier était revenu à San Francisco pour travailler dans l'unité d'investigation informatique. « Si tu crois que j'aimerais avoir ta vie, » répondit Nick, « c'est parce qu'au fond, tu aimerais avoir la mienne. » « Un jour, oui, » dit Eugène. « Évidemment, un jour. Mais pas tout de suite. En ce moment, je suis à mon apogée. Ne pas profiter de cette période serait un péché contre la virilité. Sois honnête. Vous en êtes réduit à quoi? Une fois par semaine? 2 fois par mois? Choisis le nombre qui te consolera de mourir vieux et seul. Qu'est-ce qu'il y a de mal à mourir vieux et seul? » Répliqua Eugène. Je prendrai un chien, une femme de ménage. J'imagine bien une belle histoire avec une femme de ménage. Comme Philippe Ross, mais avec un peu de douceur. L'étrange amitié qui unissait les 2 hommes était un accident que ce 21e siècle ultra-planifié n'aurait pas dû permettre. À l'origine, Nick jouait au racquetball et son adversaire attitré n'était autre que le coéquipier de Valérie, l'inspecteur Will Fraser. Mais 18 mois plus tôt, Will s'était froissé un muscle du mollet et ils avaient dû se replier au bar. Eugène, un habitué qu'il connaissait de vue, s'était fait poser un lapin par son partenaire. Il avait proposé à Nick de s'essayer au squash. Depuis, ils jouaient ensemble 1 ou 2 fois par mois. Eugène était l'un de ces dingos qui compensent leurs excès orgiaques par un entraînement physique surhumain. Nick avait peiné à arriver au bout de leur premier match sans saigner du nez ni vomir, mais son talent naturel pour les sports de raquettes, et ce que Eugène qualifiait de style bâtard et sournois, avait au fil du temps réduit l'écart de niveau qui les séparait. D'où cette mémorable victoire. Le grand perdant de l'histoire restait Will Fraser. À force de squash, Nick avait tellement progressé que Will n'avait pas remporté une partie de racquetball contre lui depuis des mois. En fait, Nick n'avait jamais été aussi en forme. Valérie, passant les mains sur ses muscles secs, avait plaisanté. « Tu es sûr que c'est le squash? Tu ne te prépares pas à m'avouer que tu es gay, si ?»« J'imagine que tu vas la revoir, » demanda Nick à Eugène. « Vous êtes fait l'un pour l'autre. » »« C'est ce que je croyais. » Et pourtant, ce matin, elle s'est levée et s'est habillée, alors que j'étais encore en plein sommeil paradoxal. Si je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir, elle se serait taillée sans que je m'en rende compte. Bref, je lui dis « Hé, tu es pressé? Reviens au lit. Je connais un super endroit où prendre le petit déjeuner. » Et elle me regarde comme si j'étais un demeuré. Peut-être qu'elle a senti ta confusion quand elle s'est mis un doigt dans le cul. Ne plaisante pas, ça m'a fait mal. Je croyais qu'on avait un vrai lien. On s'est endormis dans les bras l'un de l'autre, bon Dieu. Je lui ai même massé les pieds. Nick sourit. Il écoutait toujours les récits des conquêtes sexuelles d'Eugène avec quelques doutes, mais cette fois son adversaire paraissait sincèrement blessé. « Tu sais ce qu'elle m'a dit ?» demanda Eugène, l'air abattu. « Elle m'a dit « T'es mignon. Mignon. Elle ne m'a même pas laissé son numéro. Merde. Elle aurait au moins pu me donner un faux numéro. C'est ce que font les gens civilisés. Ça te fait quoi de savoir que tu l'as sexuellement déçue ?» C'est pas facile.